L'art en boîte.
Pourquoi l'art est si cher?
Doit-il être beau?
Faut-il être torturé pour être un artiste?
L'art en boîte,
l'émission qui rend l'art accessible et où les artistes répondent aux questions les plus sensibles. Une émission de Myrti Maillot d'Equero,
un samedi par mois à 17h30 sur le 93.9.
Si nous regardons les chiffres de l'année 2022, le marché de l'art touche de plus en plus les jeunes acheteurs. Phénomène de mode ou lié à la crise du Covid-19, augmentation du marché du crypto-art, développement de l'utilisation des NFT, Internet permet-il de démocratiser ce marché? L'art a-t-il besoin d'être démocratisé? Est-ce que l'art est un marché élitiste? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cet épisode de L'Art en boîte. Pour y répondre, je suis avec Alexandre Gicchello, président de l'hôtel Drouot et commissaire-priseur.
L'Art en boîte.
Donc on est là pour parler de l'art et notamment de son prix. Donc on est sur Radio Campus Paris donc pour une émission qui va répondre à cette question de pourquoi l'art est si cher. On va commencer avec une question juste sur les acteurs. Donc quels sont les acteurs finalement du marché de l'art? Parce qu'on sait que les expositions, les musées, les galeries jouent un rôle assez déterminant. Mais quel est le rôle qu'elles vont jouer dans la détermination du prix?
Le marché de l'art, c'est donc un marché. Donc le principe est toujours le même, c'est offre et demande. En revanche, il faut toujours avoir à l'esprit que le collectionneur particulier se trouve généralement en bout de chaîne. C'est-à-dire que dans le marché très actif de l'art, c'est surtout des professionnels qui évoluent, qui après vont solliciter des particuliers. En vente publique, pour prendre cet exemple, il n'est pas évident d'être disponible un mardi à 16h15, au moment où passe le lot, etc. Il y a encore des personnes qui travaillent quand même, voyez. C'est un marché qui est... encore une fois, marché de l'art. Marché de l'art, c'est très, 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 très large. Moi, je vais vous parler plutôt du marché des ventes publiques, parce que le reste, tout ce qui est antiquité, classique, foire, magasin, boutique, je suis pas compétent pour parler de ça. Pour revenir à ce qui est le marché de l'art des ventes publiques, là, c'est un marché qui est en grande partie professionnel, 70% de professionnels, 30% de particuliers, qui, eux, en revanche, interviennent. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, principalement via Internet, il y a de plus en plus de particuliers qui peuvent intervenir, interagir, puisque une simple connexion permet de pouvoir enchérir à Paris, mais également dans toute la province, dans toute l'Europe, et avec des acheteurs qu'on va avoir en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au pôle Nord, partout, quoi.
Donc en fait, est-ce que la digitalisation un peu du marché, elle a vraiment permis justement une grande évolution et une expansion du marché de l'art?
Mais il y a eu la période du confinement qui a été décisive pour le marché de l'art, puisque au moment où les acheteurs se sont retrouvés dans l'impossibilité d'acheter. Et comme les amateurs d'art sont tous frappés d'une maladie très grave, qui est la collectionnite, donc où les gens avaient vraiment envie et besoin d'acheter, les inscriptions sur les plateformes en ligne ont explosé, avec des progressions de l'ordre de 200%. Et on a pu voir qu'avec un système français en plus qui garantit la vente publique par l'État, la vente est réglementée en France, c'est le seul pays du monde. Les acheteurs se sont inscrits de façon exponentielle. Pour la plupart, qui avaient encore des petites réticences, là, le pas a été franchi et grâce, si je puis dire, ou à cause du confinement, les ventes en ligne ont explosé.
En termes de chiffres, en fait, on parle de combien, en fait?
Le marché de l'art, par définition, le marché de l'art classique, n'est pas forcément un marché très jeune. Il a toujours été comme ça depuis l'Antiquité classique. Vous saviez qu'il y avait un marché de l'art déjà chez les Romains. Hein. Pour s'intéresser, participer, acquérir des pièces, il faut avoir une certaine maturité. Et la majorité des acheteurs et des vrais acteurs du marché de l'art ne sont pas des jeunes. En revanche, ce qu'on a pu voir depuis quelques années, et je pense que le phénomène va s'amplifier avec le temps, c'est que le marché des ventes publiques, le marché des objets d'art, il y a aussi toute une série, il y a des automobiles de collection ou pas, il y a des chevaux, on peut vendre beaucoup de choses en vente publique. Et pour les objets d'art et de décoration, qui font partie du marché de l'art, mais qui sont très accessibles avec des prix qui partent de 10 euros, hein, on a de plus en plus d'acheteurs très jeunes, puisque la vente publique est un moyen totalement éco-responsable, puisqu'on ne fait que recycler des objets qui ont appartenu à plusieurs propriétaires précédents.
L'augmentation des jeunes acheteurs est liée à de nombreux facteurs. Comme Alexandre Gicchello l'affirme, il existe une quête de sens chez les jeunes qui fait flamber aux enchères les objets vintage et de seconde main. Chez Drouot, par exemple, les catégories qui arrivent en tête pour les moins de 40 ans sont les tableaux, les arts d'Asie, les bijoux, la mode et le vintage.
Et il y a une sensibilisation assez forte du jeune public sur justement le fait d'acheter des objets qui sont déjà existants et ne pas en fabriquer de nouveaux. Là, on sent qu'il y a un jeune public qui est de plus en plus présent au niveau de ce marché.
Par rapport à justement ces acheteurs, c'est vrai que, donc là on parle un peu de la digitalisation, mais ça a aussi amené un autre public justement et d'autres demandes, donc avec des plus jeunes acheteurs. Qu'est-ce que ça va être l'impact en fait de justement ces jeunes acheteurs sur le marché ?
En vente publique, c'est plus difficile de se faire une idée parce que nous vraiment ce sont des objets qui... Vous savez qu'à l'origine, il était interdit pour un commissaire-priseur de vendre des objets neufs. Donc la première vente d'art contemporain a été annulée par le conseil de discipline des commissaires-priseurs de Paris dans les années 60, voyez, fin des années 60. Donc après, la jurisprudence a évolué et aujourd'hui on peut vendre des œuvres d'art contemporain, mais on ne peut pas encore vendre, il n'y a pas beaucoup d'objets, il n'y a aucun objet neuf manufacturé en vente. En revanche, là c'est un marché qui est vraiment ciblé sur... Le premier ou deuxième marché, vous connaissez ces différences là, premier marché, deuxième marché. Alors le premier marché, c'est vraiment le créateur, une galerie, un client. Deuxième marché, c'est le créateur qui vend une première fois et l'objet après est revendu. Hein? Donc par exemple, Damien Hirst va créer une pièce, il va la vendre dans sa galerie va la vendre à un particulier. Quelques années après, va lui la revendre aux enchères, par exemple. Ça, c'est le deuxième marché. Ça, ce phénomène est plus visible sur le premier marché. Maintenant, tout ce qui est... Alors, j'aime pas trop le terme de démocratisation du marché de l'art, parce que l'art est censé être universel. Pas besoin de le démocratiser. Okay. En revanche, il peut être senti comme un peu élitiste.
C'est ça.
Voilà. Et ça, moi, j'étais vraiment très, très heureux d'entendre que l'histoire de l'art va être réintégrée au collège et au lycée. Parce que justement, cet élitisme faisait partie aussi du fait que bon, les personnes qui avaient eu accès aux musées, aux livres, aux études, etc., étaient effectivement des personnes qui avaient été orientées par leurs parents, souvent. L'art doit être partout. Il est partout, d'ailleurs. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'art est plus fort que la politique. Donc, on pourra faire certainement avec l'art ce qu'on a du mal à faire avec la politique. Mais le chemin est long.
Et comment, enfin, selon vous, on peut rendre justement ce marché plus accessible ?
Internet participe grandement à cette accessibilité, puisqu'auparavant, quand vous aviez l'intention d'acheter une pièce en vente publique, il fallait se déplacer. Alors, vous êtes parisien, vous passez à l'hôtel Drouot, bon, ça peut s'arranger, vous habitez Toulouse, c'est déjà plus compliqué, vous êtes obligé d'envoyer quelqu'un qui voit pour vous, etc., etc. Le rapport personnel et intime avec un objet d'art est très important dans l'achat, puisqu'il se crée une relation entre l'objet et la personne qui souhaite l'acquérir ou qui la regarde. Hein. C'est une grande théorie métaphysique du marché de l'art. C'est-à-dire que l'objet, il y a une relation entre un objet et une personne. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on peut effectivement enchérir à l'étranger, très très loin, avec des garanties assez grandes. Et ça permet effectivement d'élargir de façon... pratiquement infini le panorama des acheteurs. Auparavant, effectivement, le marché de l'art était un milieu extrêmement fermé et qui ne souhaitait pas vraiment d'ailleurs s'ouvrir.
Mais pour revenir justement sur les cours d'histoire de l'art, ça pose aussi question parce que justement, enfin, récemment, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a beaucoup de jeunes en fait, qui ne veulent même pas en fait, voir par exemple des tableaux de femmes nues, etc., donc en cours. Et c'est vrai que ça pose aussi question, parce que c'est aussi compliqué, en fait, de changer les mentalités à ce niveau-là.
C'est parce qu'on ne leur a pas expliqué, c'est tout. Ils n'ont pas été mis en contact avec une façon de voir la nature, parce que l'artiste, ce n'est qu'un intermédiaire entre la nature et le spectateur. Ça pourra se régler effectivement peut-être par l'histoire de l'art. On explique les choses et on explique la nature dans son entier, le corps humain, l'anatomie. À la Renaissance, on a réintégré la science dans cette analyse de l'art. On a commencé, vous savez, à donc répartir les proportions, les perspectives, le nombre d'or, le point de fuite, les constructions triangulaires, géométriques, etc. C'est tout un processus intellectuel. L'idée, c'est d'essayer d'aller plus loin, d'apprendre des choses et de progresser. Et être en mesure, soi-même, individuellement, de se faire une opinion, de se créer sa culture et de pouvoir observer, justement, grâce au marché de l'art, le génie de l'humanité. 45 000 ans avant notre ère, dans les cavernes, on faisait déjà des fresques, on sculptait des objets. Ça, c'est l'homme.
Cette manière du coup qu'on a eu avant de comprendre l'art et de l'assimiler justement avec des cours d'histoire de l'art, est-ce qu'aujourd'hui Internet, donc qui est justement un bon moyen de rendre l'art et le marché de l'art plus accessible, ça va aussi passer par d'autres types d'art comme du coup les IA, l'art numérique, le crypto-art, etc.
Bon, de toute façon, il n'y a pas de frontière entre les arts. Pour moi, je vous parlais d'un silex taillé ou d'une œuvre numérique. C'est toujours de l'art, c'est de créer chez l'autre un choc esthétique ou intellectuel où on fait réfléchir. Bah ça, c'est plus l'art du 20e où là, on va conceptualiser et envoyer des messages à la fois de tous ordres. Hein. Ça peut être politique d'ailleurs. L'art a été extrêmement politisé au 20e siècle, comme vous savez. Mais c'est déjà créer une émotion chez le spectateur. Donc, moi, les NFT, si ça crée chez moi une émotion, je trouve ça génial. Non, si c'est moche, ben je le dis aussi. Mais c'est toujours de l'art. Créer artificiellement des frontières entre l'art contemporain, l'art classique, ou je ne sais quoi, ça, pour moi, c'est sans fondement.
Et en fait, dans le premier épisode donc, de l'art en boîte, on parlait avec la chercheuse, justement, Elisa Ullery-Laure, qui est chercheuse en sociologie des arts, d'un peu cette frontière qui était faite avec l'art de la céramique et les autres types d'art, qui après en fait le marché de l'art de la céramique est devenu de plus en plus important, mais à l'origine il était vraiment marginalisé.
Ça, c'est intéressant aussi. C'est la frontière entre les arts décoratifs et les arts classiques. La définition des arts décoratifs, c'est le beau dans l'utile. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des objets utilitaires, effectivement. Ça va être une commode, ça va être un vase, on parlait de céramique. Ça va être, je ne sais quoi, un lustre. Et à partir de cette fonction utilitaire, on va développer un esthétisme et on va développer quelque chose qui va devenir un véritable objet d'art. Vous prenez un porte-torchère pompéen en bronze, vous voyez, c'est un véritable objet d'art qui aujourd'hui vaut d'ailleurs assez cher. Mais à l'origine, c'est juste un truc pour éclairer dans un coin. Très longtemps, effectivement, les arts décoratifs ont été considérés comme un peu l'enfant pauvre de ce que pouvait être le marché de l'art, d'autant plus que pendant très longtemps, les ouvriers étaient dans des corporations. Il a fallu attendre la révolution pour abolir les corporations. Et même les peintres, pendant très longtemps, jusqu'à la Renaissance, étaient considérés comme des simples artisans. Et c'est à la Renaissance que le statut du peintre est passé de celui d'artisan à celui de prince. Les arts décoratifs, c'était beaucoup, beaucoup plus tard. Je ne trace pas de frontière entre les arts décoratifs et les arts et les beaux-arts, puisque moi, j'adore les arts décoratifs en plus. Et puis, c'est vraiment notre cœur de métier, parce qu'en vente publique, en général, à l'Hôtel Drouot en particulier, il y a beaucoup, beaucoup d'arts décoratifs.
Et comment l'Hôtel Drouot, justement, il sélectionne les œuvres d'art? Et quel va être un peu le processus, donc, à partir du moment où une œuvre arrive à l'hôtel, jusqu'à la vente?
L'Hôtel Drouot est une plateforme mise au service des maisons de vente qui sont toutes indépendantes et qui utilisent l'hôtel comme un outil. Donc, ce n'est pas l'Hôtel Drouot qui sélectionne les objets, ce sont les maisons de vente qui organisent leurs ventes et qui, après, vont venir à l'Hôtel Drouot pour organiser la vente publique qui bénéficiera donc d'une audience, d'une structure, de matériel, de personnel, etc. etc. Comme d'ailleurs, la Gazette Drouot va offrir une plateforme médiatique aux maisons de vente qui sont toutes indépendantes et qui utilisent tous la Gazette Drouot pour faire leur publicité, ou le site qui lui-même est également une plateforme ouverte à toutes les maisons de vente pour pouvoir bénéficier de notre service. Mais le groupe Drouot est une suite de services mis à la disposition de toutes les maisons de vente qui, elles, sont indépendantes.
Donc c'est vraiment une plateforme. Et est-ce que vous avez un regard justement sur le prix des œuvres?
Alors, absolument pas sur le prix. En revanche, notamment pour la plateforme numérique, on a une obligation on a un regard sur la qualité des objets qui y passent, vendus à l'étranger souvent, qui sont interdits à la vente en France. Par exemple, les objets faisant l'apologie de crimes contre l'humanité. Et là, on a une obligation sur le site, un peu de police, pour pouvoir retirer certains objets qui... Et les législations étant différentes entre les pays, il y a un vrai travail, il y a une vraie vigilance au niveau du site. En revanche, à l'Hôtel Drouot, on a uniquement une obligation en matière d'ordre public. Comme c'est un établissement recevant du public, On ne peut pas passer en vente un objet qui déchaînerait une manifestation, vous voyez, une émeute. Voilà.
Au sujet du prix, donc, il y a plusieurs facteurs, donc économique, il y a aussi la notoriété de l'artiste. Mais quels sont un peu ces facteurs et quels sont leurs rôles?
Je reviens à ce que je disais au tout début. C'est l'offre et la demande. Donc, pourquoi tel artiste, là où je pense que vous faites surtout référence à l'art contemporain, pourquoi tel artiste, mais ça s'applique également à la peinture du 16e ou du 17e siècle. Pourquoi tel artiste va être beaucoup plus recherché que tel autre? Je crois qu'il faut dans un premier temps se pencher sur la qualité intrinsèque des œuvres. Pourquoi, aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur Picasso, mais pourquoi Picasso a une telle notoriété encore aujourd'hui? Parce que Picasso est un génie absolu, et quand vous allez voir n'importe quelle exposition, il y a une grande rétrospective sur les dessins de Picasso au musée Pompidou il y a quelques semaines. C'était vertigineux, le génie dans tous les styles pendant près de 50 ans. Donc il n'y a pas de hasard. Pourquoi aujourd'hui Picasso a cette place dans le marché de l'art? C'est parce que l'artiste est majeur. Pourquoi un autre de la même époque va avoir une place bien inférieure? Parce qu'il est moins bon. Après, au niveau de l'art contemporain, vient se mêler un facteur un peu particulier, qui est celui de la spéculation et de la commercialisation et de la financiarisation à outrance de ce marché, avec des systèmes de garantie, avec effectivement des galeries qui vont faire la promotion des artistes mieux que d'autres, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui échappe totalement à ma conception du marché et surtout à l'Hôtel d'Euro, puisque nous faisons absolument très peu d'art contemporain. C'est un marché qui est vraiment un marché vraiment à part et qui répond à des règles assez différentes de celui de l'art classique. Tout ce qui est un peu artificiel, un jour ou l'autre, tombe. C'est le temps qui est le vrai juge de paix du marché de l'art. C'est-à-dire qu'on voit énormément d'artistes qui ont eu un succès fou dans les années 70 et qui aujourd'hui sont à la peine parce que le temps aura fait son œuvre et que, effectivement, la nouveauté, le génie... vous savez, en art, le talent ne suffit pas. Il faut du génie. Ça, c'est quelque chose que moi, je vois tous les jours. Donc, et parfois, le génie se découvre plus tard. Il y a un nombre considérable de peintres qui valaient rien de leur vivant et qui aujourd'hui valent très cher. Et inversement, des peintres qui se vendaient extrêmement cher de leur vivant et qui, après 30 ans, 50 ans, 100 ans, sont un peu passés dans l'oubli. Et ça, c'est le marché qui se régule seul au gré des expositions qui vont mettre en la lumière sur tel ou tel artiste, des publications.
Mais quelle est votre vision à vous de l'art?
Je suis un professionnel du marché de l'art. Donc moi, l'art, il accompagne ma vie chaque minute, même mon sommeil sans doute, parce que je rêve de vente, je rêve d'objets, etc. Donc je suis vraiment le moins bien placé objectivement pour parler de l'art, parce que pour moi, l'art, c'est vraiment tout dans la vie. J'imaginerai pas une seconde la vie sans art. Posez la question à mes enfants, vous verrez. Mais le rapport à l'art n'est pas uniquement un rapport de possession. Ça peut être un rapport de partage aussi. L'évolution de l'art est liée à l'évolution de l'humanité, l'évolution des connaissances, l'évolution économique, parce que les artistes allaient en permanence là où il y avait des mécènes, des grands princes qui pouvaient payer des collections très importantes et des objets d'art et des tableaux très importants. Comme depuis toujours, les artistes ont toujours été de grands voyageurs parce qu'on va là où on va apprendre des choses et là on va trouver quelqu'un qui va payer son travail. La connaissance historique et de l'histoire de l'art nous permet de mieux nous connaître et de peut-être éviter certains écueils. Et c'est pour ça que je reviens à l'importance de l'histoire et des sortes de l'art dès le plus jeune âge pour qu'on puisse savoir d'où on vient et où on va. Et l'art fait partie de ça. Vous voyez, on parle beaucoup aujourd'hui des provenances des objets d'art. Et puis quand on s'intéresse de près à la question, on se rend compte que une des petites icônes la plus importante de l'histoire de la préhistoire, qui est une petite Vénus qu'on a trouvée en Autriche, ou en Allemagne, je ne sais plus, enfin dans le Tyrol, qui s'appelle la Vénus de Willendorf, eh bien on s'est rendu compte, en l'analysant scientifiquement, qu'elle était constituée d'une pierre qui venait d'Italie. Ça veut dire que là, on est en 35 000 ans avant Jésus-Christ, et que cet objet, ou la matière qui a créé cet objet, a traversé toutes les Alpes pour passer de l'Italie jusqu'en Allemagne. Parce que déjà à l'époque, il y avait des échanges économiques, intellectuels, et dans les tombes de l'âge de bronze, on trouve des perles chinoises et des perles d'Asie, etc. Il y a toujours eu des échanges. Donc ça, c'est passionnant. C'est grâce à ça qu'on a une lumière un peu plus précise sur, justement, l'histoire de l'humanité.
Dernière question, oui. Est-ce que l'art est cher ? Est-ce que le marché de l'art est cher ?
Oui, le marché de l'art est cher. Mais le marché de l'art a toujours été cher. On a des textes latins, principalement, qui nous expliquent le marché de l'art à l'époque romaine. On sait déjà qu'il y avait des artistes et des artisans et des faussaires qui faisaient des fausses statues grecques pour vendre aux Romains. Enfin, c'était tout un... Déjà, vous voyez, on n'a rien inventé. Il y a toujours eu des faussaires, il y en aura toujours. Et déjà, à l'époque, l'art était extrêmement cher. Et les plus grands collectionneurs étaient déjà l'empereur Tibère. Les grands chefs-d'œuvre vont s'arracher effectivement des prix qui nous paraissent aujourd'hui astronomiques, mais c'est lié au fait de la composition des grandes fortunes qui vont acheter ce genre d'œuvres d'art. Et encore une fois, n'oublions pas qu'au XVIIe siècle, des personnes se sont ruinées en Hollande pour acheter des oignons de tulipes.
Ce phénomène s'appelle la tulipomanie. Pour comprendre, il faut remonter au XVIIe siècle et à ce que les historiens ont appelé la crise de la tulipe, qui serait finalement la première bulle spéculative du marché de l'art ou encore le premier crash financier de l'histoire. À ce moment-là, les bulbes de tulipes s'achètent par cargaison entière et se revendent plus cher qu'un Rembrandt.
L'art à un très haut niveau est très cher, mais il est très rare. Les grands chefs-d'œuvre sont rarissimes, très très rares. Aujourd'hui, les musées sont pleins de chefs-d'œuvre. Les rares chefs-d'œuvre qui restent sur le marché de l'art sont de moins en moins nombreux. Alors le marché se renouvelle puisque on redécouvre des choses et on recrée en permanence des objets. Mais aujourd'hui, pour trouver par exemple une peinture de la Renaissance très importante qui passera en vente publique, l'œuvre est rarissime, donc va faire un prix très important et c'est normal. Demain, une dorée va être extrêmement rare, elle sera payée très cher, par un petit nombre.
Par rapport aux artistes émergents, du coup, comment ça se passe pour eux, donc, ce marché ? Est-ce que c'est facile pour eux de s'insérer dans le marché de l'art, pour être cotés, etc. ? Ou est-ce que c'est assez compliqué ?
De tout temps, il y a eu un très très grand nombre d'artistes qui n'ont jamais réussi à percer. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 30 ans ou 200 ans. Les choses se font, encore une fois, ça peut paraître un peu étonnant, mais se font naturellement. C'est-à-dire qu'un très très bon artiste émergent, il ne va pas rester longtemps anonyme. Parce qu'il va être observé et guetté par des galeries, dont c'est le métier, et qui vont vouloir avoir cet artiste dans leur écurie. Et très rapidement, il va... Et là encore, on rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure, la différence entre talent et génie. Tous les jours, on voit émerger un artiste nouveau et avec des succès relatifs. Il y a des artistes qui vont exploser pendant 5, 6 ans, 10 ans, et après, dont la création va se rouiller, etc., et qui vont un peu disparaître. Et d'autres qui vont faire des carrières à la Picasso, vous voyez. Donc, mais ça se fait vraiment naturellement. Ça ne peut en aucun cas être artificiel. Quand c'est mauvais, vous voyez. Quand c'est bon, c'est bon. Enfin, c'est un peu, c'est hyper simpliste comme raisonnement. Mais pourquoi on va être nous trois sensibles à tel type d'art et pas tel autre ? Ça s'explique notamment par notre passé, notre inconscient, notre cerveau qui a imprimé plein d'images, qui a vécu plein d'expériences, qui a ressenti plein de choses. Là, récemment, il y avait une grande exposition Sophica au musée Picasso, qui est un art très conceptuel, c'est l'écriture liée à l'image. Moi, j'ai vu une énorme personne en pleurs. Alors, on peut pas, là, je me dis, voilà, il y a une émotion qui est créée. C'est une émotion qui est esthétique, mais à la fois beaucoup plus profonde. Pourquoi ce message va parler à telle personne ou telle autre ? Mais c'est une exposition qui a eu un énorme succès populaire, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrées. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce message parle à ce public. Donc, les choses, et c'est pas du tout artificiel. Hein. Sophie Kahl est une artiste qui a fait ses preuves. Et donc, quand c'est artificiel, ça dure 10 ans et après, il y a un problème.
Clare en boîte.